Phil PM. Politique.
On est toujours prêt à regarder qu'est-ce qu'il faut faire différemment quand il y a des choses préoccupantes qui sortent.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour Paul.
Salut Bernard.
Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour Carl.
Allô.
Alors, vous comprendrez, les gars, si vous avez entendu le segment précédent, que c'est une transition qui n'est pas évidente, là. Je veux juste dire aux auditeurs, c'était vraiment quelque chose, là. Je veux juste dire aux auditeurs, je lis tous les textos et les courriels que vous m'avez envoyés, OK? J'en ai pas lu des extraits en onde, là, mais je vous ai lu. Et en passant, le jeune Alexandre, là, vous êtes plusieurs à m'avoir écrit pour dire il y a besoin de l'aide. On a son numéro de téléphone, puis on va essayer de l'aider, OK? Mais je veux juste que vous sachiez que quand vous m'avez écrit, je vous ai lu. Voilà. On y va maintenant. Carl, on commence avec toi.
Oui.
Les dépenses de l'ex-gouverneur général Adrienne Clarkson. Écoute, elle a quitté en 2005, ça fait quand même 13 ans de ça. Et le journal, je pense que c'est National Post, qui nous apprend que depuis ce temps, elle nous facture à nous, les contribuables, 100 000 $ par année en dépenses de bureau, dépenses personnelles, c'est ça?
Dépenses de bureau, support administratif, services professionnels, frais de voyage, etc. Écoute, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup, là, mais depuis 1979, tous les anciens gouverneurs généraux ont droit à demander des remboursements au fédéral pour leurs frais de bureau, pour leurs activités post-mandat. Et c'est un programme qui est pas qui est similaire à ce qui se fait au Québec, d'ailleurs, avec les premiers ministres. Là. Cogeco Nouvelle avait sorti les chiffres l'an passé.
Oui. Mais sauf que le gouvernement du Québec a décidé de mettre un holà à ces dépenses-là en fixant un plafond puis en fixant aussi une durée pendant laquelle on rembourse les dépenses des premiers ministres sortants.
Et l'autre chose, c'est qu'évidemment, les anciens premiers ministres, c'était des élus.
Oui.
Alors que dans le cas des gouverneurs généraux, ben c'est des gens qui occupent un poste honorifique, protocolaire. Mais bon.
Là, tu es en train de nous dire qu'il n'y a aucune limite dans le temps et aucune limite pour le montant. Et tant et aussi longtemps qu'elle va nous facturer, on va être obligé de payer. C'est ça que tu dis?
Mais là, on a entendu Justin Trudeau en ouverture de segment là, qui dit qu'on va regarder ça. Il n'y a pas d'urgence d'agir là, mais bon, ils vont regarder. Pour l'instant, donc, ça fait plus d'un million de dollars là, depuis son départ à Adrienne Clarkson. Dans son cas, ce qui est particulier, c'est que le 100 000 $ par année, là, ça semble assez constant. Il y a un seul autre gouverneur général qui a dépassé le 100 000 $, c'est Roméo Leblanc. Il l'a fait à deux reprises en 2008 et en 2009. Et bon, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là?
Ben,
dans le cas de Clarkson, on dit on reçoit 200 lettres par mois, faut leur répondre. On a des invitations pour des événements, donne des discours. Sauf qu'elle donne des discours, mais elle fait partie d'une agence de casting.
Ben
alors,
oui.
Elle fait de l'argent avec ça aussi.
Tu me niaises.
Oui, ben c'est sûr, elle fait partie
de l'agence. OK, elle collecte quand elle va donner un discours, puis elle paye pas ses dépenses, elle même ses honoraires, elle nous fait payer les dépenses.
C'est ça qui est pas clair, mais c'est ce qui est supposé parce que ce sont les services qui sont offerts par le gouvernement du Canada aux anciens gouverneurs généraux. Évidemment, le bureau de Mme Clarkson n'a pas répondu aux questions du National Post. Et Mme Clarkson, là, dans le passé, avait, disons, un certain goût pour les fonds publics. Elle promenait avec des longs voyages officiels, ça avait fait les manchettes à l'époque, elle se promenait en Russie, en Islande, ça coûtait plus d'un million de dollars, mais à la fin, ça coûtait 5,3 millions. Il y a eu un comité qui s'est penché là-dessus, donc c'est pas la première fois. Mmh. Et là, ben Justin Trudeau, ça s'est engagé à regarder ça. Il faut comprendre aussi que dans le cas de Mme Clarkson, en plus de ces frais-là, on lui a donné jusqu'à maintenant 1,6 million de dollars en pension.
Ah, là, je vais lâcher un gros sacre. Sérieux, là. Parce que c'était ma prochaine question. J'allais te dire, dis-moi pas qu'en plus de ça, il faut y payer une retraite à elle, là.
Ah, ben oui, bien sûr. Donc, c'est une belle retraite parce que c'est basé sur son salaire qui est pas peu cher. Et en plus de ça, parce qu'elle était gouverneur général, elle a mis sur pied une fondation qui s'appelle l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Et depuis sa création, cet institut-là a récolté 10 millions de dollars du fédéral, notamment parce qu'il matchait les dons qui venaient du privé. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'argent pour quelqu'un qui, en fait, a été nommé pour un poste protocolaire honorifique et qui n'a pas beaucoup de justification sur ces dépenses-là.
Hey, on nous prend vraiment pour une bande de dindes. Mais on est-tu assez imbécile, nous
autres? Il faut prendre soin de la reine et de ses représentants, Bernard. C'est la monarchie.
Bien sûr.
Oui.
Mais toi,
la monarchie,
tu n'as
fait
pas
à moitié.
Tu as prêté serment, là, oui.
Exact. C'est ça. Tu n'as pas le droit de critiquer, Bernard.
OK. Ça, c'est le genre d'histoire, là. Puis, sais-tu quoi? Dans 48 heures, on n'en parlera plus. Hein? Je veux dire, là, on est en... Là, dans 48 heures, ça va être...
Ton
on va
serment,
être,
Bernard.
On va être rendu ailleurs. Non, mais tu sais, tu te dis, on peut-tu commencer par ces petites affaires-là, là, qui sont des, qui deviennent des grosses affaires parce que à force d'ajouter des 100 000, ça finit par faire des millions. Mais tu sais, avant de penser à des grandes stos de réforme, des projets de loi, des commissions, des réformes, juste s'attaquer à ce genre de petits abus, je dis petits dans l'ordre général des choses, déjà, là, déjà, ça nous ferait du bien. Mettons qu'on se dirait là qu'on va régler ce problème-là, qu'on va changer la règle pour faire en sorte qu'on arrête de nous presser comme une gang de citrons. Tu sais, déjà, là, mais semble. Mais y a-t-il un parti d'opposition à Ottawa, Carl, qui va prendre cette bataille-là puis qui mais va écoute, poser la question à tous les jours? Mettons qu'il nous dit, là, pour une semaine, je vais être là-dessus. Je vous promets qu'à tous les jours, on va faire lever Trudeau jusqu'à temps qu'il s'engage à changer la règle. Ça peut-tu arriver, ça?
Bien, on va regarder la période de questions. C'est pas impossible. Mais dans le problème, évidemment, dans le cas de Clarkson, c'est qu'elle n'est plus là depuis un bon bout de temps. Trudeau n'est pas responsable directement.
Mais attends, là, on paye pour Clarkson. J'ai hâte de voir ce qu'on va payer pour Michael Jean, moi, là. Parce que c'est pas tout, ça, c'est... là. Depuis oui, Adrienne, il y en a eu une couple de GG,
ouais.
Là.
Hein, on va tuer. Oui, mais il y en a d'autres qui se sont trouvés des jobs après. Ils ont fait d'autres choses. Donc, leur défense était moins claire. Parce qu'évidemment, lorsque tu as d'autres emplois, dans le cas de Michael Jean, il y a d'autres entités qui reprennent le relais. Là, on vient d'en donner une job au gouverneur, l'ancien gouverneur général Johnston qui va s'occuper des débats électoraux.
Ben oui! Hein, ça va, ça, non, mais ça arrête pas de bien aller. Le gars, il a été gouverneur général. Je suis sûr qu'on va payer une pension pour ça. On doit payer un petit montant certain pour s'occuper de ses frais de bureau. Puis là, on va lui donner un autre petit salaire comme commissaire au débat des chefs. Puis peut-être une petite retraite en plus pour le commissaire après, tu sais, qui va s'ajouter à la retraite du gouverneur général.
Écoute, le budget pour ce commissaire-là, là, il semble établi à 5 millions de dollars par année.
5,5.
Radio-Canada, ça leur a coûté un quart de million pour organiser leur débat. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'il est trop tard pour déposer sa candidature, Bernard, pour être finalement salarié?
Mais moi, j'ai une avance.
Je trouve que ce sont d'excellentes conditions d'emploi.
Moi, j'ai une avance sur toi parce que j'ai été 4 fois député, j'ai prêté 4 fois serment à la reine. Fait que moi, je pense que j'ai une longueur d'avance. Si j'envoie ma candidature.
Mais moi, j'ai reçu la reine.
Mais comment tu réconcilies ton serment à la reine avec ce que tu viens de dire, Bernard? Je te cite au mot, t'as prêté vraie allégeance à Sa Majesté la reine. Ce sont tes mots, Bernard.
Carl, qu'est-ce que tu dis?
J'ai reçu la médaille du jubilé de la reine.
Ah ouais, mais ça, n'importe qui pouvait l'avoir.
Dans ses bonnes grâces.
Carl, n'importe qui pouvait l'avoir, il s'agissait de la demander. Ben, une chance que je suis au courant de ça, hein?
Une chance. Mais quand même, ça paraît bien sur mon bureau.
Ben, dis-moi pas que t'as ça sur ton bureau.
Ben non, c'est affiché. Oui, j'ai accroché ça. Là, faut bien que ça s'arrête.
Ouais, tu m'enverras une photo de ça, je te crois pas une minute, Carl Bélanger. OK, on s'arrête. Au retour, Paul veut nous parler des médecins. Le salaire des médecins spécialistes, ils s'en sortent pas trop mal. Sauf que là, est-ce que le gouvernement de la CAQ va véritablement récupérer l'argent de la hausse de rémunération versée aux médecins spécialistes dans un instant?
Fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth.
Oh, mon enfant de
98.5. Circulation. Trêville PM. Politique.
Est-ce qu'il y a un gel ou il n'y a pas de gel à l'heure actuelle?
En ce moment, il n'y a pas de gel parce qu'on veut comprendre qu'est-ce que c'est les chiffres qui auraient à geler si gel il y avait. Donc, ce que je vous dis... Il faut que je comprenne les chiffres. J'ai posé des questions. Ces questions-là, je vais avoir les réponses dans les prochains jours. L'étude comparative, ce qu'on va faire dans les prochains jours, et c'est ça l'entente que j'ai eue avec ce matin avec Dr. Francoeur, c'est notre priorité. On s'est entendu ce matin qu'on va faire ça au cours des prochaines semaines.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'était Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, à l'entrée du Conseil des ministres, il y a quelques heures de ça. Donc, il parlait, Paul, si je comprends bien, là, des médecins spécialistes, de l'argent qu'on veut récupérer. Et toi, tu comprends quoi de tout ça?
Je comprends que je ne comprends pas. On s'y perd. C'est difficile de démêler tout ça. Et au moins, Christian Dubé a la franchise de dire que lui-même, il n'est pas encore certain de comprendre tout à fait les modalités de l'entente. Ça. François Legault avait dit la semaine dernière qu'il y avait un gel des hausses prévues. Le Christian Dubé dit, c'est pas tout à fait ça. selon sa compréhension, à l'heure actuelle, il n'y aurait pas de gel. Ce qui me rassure, c'est qu'il est en train d'obtenir les brefages techniques, de faire les rencontres et il promet de revenir avec une réponse précise. On peut quand même lui donner quelques jours.
D'accord.
Deux autres choses que je remarque. Un, l'étude. Tu te souviens, oui. La CAQ voulait avoir une étude le plus rapidement possible pour pouvoir comparer la rémunération des médecins spécialistes du Québec à celle de l'Ontario. On a appris finalement que c'était une comparaison avec l'ensemble des médecins canadiens, ce qui serait susceptible d'avantager nos médecins spécialistes. Et l'autre chose que j'ai remarqué ce matin, c'est le ton de Diane Francoeur. Diane Francoeur, présidente de la Fédération des médecins spécialistes, elle souriait, était de bonne humeur. Quand il y a un nouveau gouvernement élu qui menace de t'enlever de l'argent que tu avais eu dans une précédente signature, habituellement, tu es de mauvaise humeur. Je ne sais pas trop quoi en décoder.
Ben, j'allais te poser la question.
Est-ce que c'est juste une stratégie de négociation? Est-ce que c'est parce qu'elle a eu des signaux positifs de la part de Christian Dubé? Est-ce que c'est tout simplement parce qu'elle se dit qu'elle rencontre qu'elle va négocier avec quelqu'un plein de bon sens, qui est intelligent?
Qui l'était pas?
Ben, en même temps, c'est ça. C'est une bonne question parce que on peut pas dire que les négociateurs du précédent gouvernement Couillard, à commencer par M. Iglesias, secrétaire général, étaient hostiles aux médecins. Au contraire, ils ont laissé les médecins partir avec la caisse. Fait que c'est pour ça que je suis pris avec des hypothèses.
Ma théorie à moi, c'est que Diane Francoeur, elle a le gros bout du bâton. Parce qu'elle, elle connaît son entente, puis elle sait de quoi elle parle. Et donc, lorsqu'il y a eu les sorties de François Legault la semaine dernière, ben, immédiatement, ils ont réagi en disant « c'est pas le cas, il n'y en a pas d'augmentation de tarifs avant, quoi, je pense, 2023. Donc, il peut pas avoir de gel. » Et là, ben, il se retrouve dans une situation où la CAQ doit faire du rattrapage Diane Francoeur est bien assise confortablement sur son entente qu'elle a négociée et elle la connaît.
Mais j'allais te dire, je me pose la question si Diane Francoeur, finalement, n'est pas la personne au Québec qui connaît le mieux cette entente-là. Tu sais, quand j'entends le président du Conseil du Trésor dire « Écoutez, là, je suis pas sûr encore de bien comprendre, laissez-moi le temps. » Alors, j'y donne le temps et salue ce que dit Paul, c'est-à-dire qu'il y a la franchise de nous donner l'heure juste et de reconnaître qu'il va avoir besoin d'être briefé sur l'entente. Mais il faut dire, faut qu'elle soit complexe en maudit, cette entente-là, pour que celui qui est supposé gérer à notre nom...
C'est toujours comme ça, puis devine qui s'avantage que l'entente soit complexe. Ça avantage les médecins.
Toujours les mêmes.
Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, qui étaient d'accord avec la CAQ, puis qui ont le goût qu'on réussisse à récupérer un peu de l'argent. Ce qui peut les rassurer, c'est que de toute façon, on attend les résultats de l'étude avant de se lancer dans le détail des négos. Donc, même si M. Dubé n'est pas capable de nous répondre clairement en ce moment, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les bonnes infos lors de la négo parce qu'on n'est pas rendu là. Mais, ça sera très difficile de revenir sur une entente signée.
OK. Parle-nous de nomination du prochain commissaire à l'UPAC.
Oui, ce matin, Simon-Jolin Barrette, à l'entrée du Conseil des ministres, a déjà donné un avant-goût de ce qui pourrait être le premier projet de loi déposé par le gouvernement Legault.
Je ne peux pas vous dire quel projet de loi sera le premier projet de loi.
Est-ce que c'est une priorité pour vous de régler cette question-là?
La nomination aux deux tiers a toujours été une priorité pour nous, du commissaire à l'UPAC. D'ailleurs, sous l'ancienne législature, lors de la 41e législature, j'avais déposé moi-même un projet de loi pour faire en sorte que le commissaire de l'unité permanente anticorruption soit désigné aux deux tiers.
D'accord. Alors donc, ça risque d'être le premier projet de loi qu'ils vont déposer?
Ou un des premiers? Pour deux raisons, parce que c'est facile, hein, c'est pas un projet de loi qui est compliqué à écrire, et aussi parce qu'on sait, Robert Lafrenière a quitté son poste, il y a un remplaçant intérimaire, Frédéric Gaudreau, mais il faudra confirmer un nouveau poste là, de commissaire permanent. Ce qu'il faut dire sur le mode de nomination, il est pas mal moins pourri que l'opposition le prétend, entre autres parce qu'il a été changé récemment.
L'opposition, laquelle?
Sous le précédent gouvernement Couillard, ce que les péquistes et les caquistes et les solidaires prétendaient.
Oui.
On a changé le mode de nomination. Il y a maintenant un comité d'experts qui dresse une liste courte de candidats et surtout, le mandat n'est plus renouvelable. Parce que le gros problème, ce qu'on craignait, c'était que le commissaire agisse par crainte de perdre sa job ou par crainte de ne pas être renouvelé. À partir du moment où tu rends ça très compliqué de dégommer un commissaire et tu rends son mandat non renouvelable...
D'une durée de combien d'années?
Sept années. Tu bétonnes son indépendance. D'accord. Et la preuve, c'était cette formule-là qui avait été recommandée par la commission Charbonneau. La coalition Avenir Québec
Tu peux garder tout ce que tu viens de me dire là. Puis c'est la Chambre qui entérine...
C'est ce que j'allais dire. La Coalition Avenir Québec veut aller plus loin. Elle veut que ce ne soit plus le gouvernement qui le nomme, mais l'Assemblée nationale. D'accord. Donc, l'ensemble des députés, par un vote aux deux tiers au minimum.
Mais est-ce que c'est moi ou c'est ça manque d'envergure pour un projet de loi 1, là?
Ah, je suis pas d'accord, moi.
Bon,
Carl, non, je suis pas d'accord. Carl, je vais te dire, il y a eu tellement d'histoires de corruption, puis toutes les enquêtes de l'UPAC qui sont malheureusement soit tombées à l'eau, soit compromises, on sait plus trop où elles en sont rendues, que la CAQ veuille, dans son premier projet de loi, envoyer un signal sur l'intégrité, que ça reste important, que c'est qu'il faut tirer les leçons des dernières années, des histoires de magouilles et tout le reste. On pourra en reparler, Carl, de toute façon, absolument, parce qu'ils vont siéger à partir du 27 novembre. Ouais. On s'entend qu'on va avoir du temps. Mais moi, je pense que c'est un bon signal à envoyer l'intégrité. Puis ça peut se passer rapidement. S'ils ont la collaboration de l'opposition officielle libérale, ils peuvent passer ça avant Noël. Je suis convaincu de ça. Paul Journet, merci.
Merci, Bernard.
Carl Bélanger, merci à toi aussi.
À demain.
On s'arrête dans un instant. Les informations, on continue tout de suite après.